Donc, après quelques semaines d'absence, on est de retour, Jonathan Léveillé et moi, pour le deuxième type de concept qu'on fait sur le podcast Hypercroissance, qui est un entretien un petit peu plus sous forme de discussion sur les actualités du moment. Mais première chose, vu que ça fait un certain temps qu'on s'est parlé, Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Comment a été ton été?
Salut Antoine, ça va super bien. Très bel été, on en a profité. Beaucoup de choses qui sont arrivées, autant du côté personnel que professionnel.
Et c'est un des premiers thèmes qu'on va discuter un petit peu ensemble aujourd'hui, Jonathan et moi. Il y a deux sujets vraiment à la discussion. Le premier sujet, c'est on veut discuter des vacances. En tant qu'entrepreneur, des fois, chef d'entreprise, dirigeant ou même des gens qui sont cadres dans des plus grandes organisations, on a beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Certains, et j'en suis coupable, on a de la misère des fois à prendre des vacances. Et pour d'autres, c'est plus facile parce qu'on a une certaine planification qu'on était capable de faire au niveau des journées qu'on va être à l'extérieur du bureau. Donc, ça va être le premier thème de la discussion aujourd'hui. Et le deuxième thème, on va également discuter du fameux concept du moment. On dirait que c'est un buzzword qu'on retrouve un petit peu partout sur Internet, le quiet quitting, et également au niveau de l'employeur, ce qu'on appelle le quiet firing. Donc, on dirait que c'est un nouveau concept qui s'est installé chez certains chefs d'entreprise et également chez certains employés qui ne sont plus en amour avec leur emploi. Donc, on va discuter un peu de ce thème-là. Mais commençons, les vacances. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de podcasts pendant l'été, parce qu'il y a eu certaines vacances autant du côté de Jonathan que de moi, surtout au niveau des absences. Jonathan, toi, comment t'abordes ça? Les vacances, l'été, comment tu vois ça de ton côté et est-ce que ça a évolué ta réflexion à travers le temps?
Ben, je pense que c'est un bon point, c'est parler vraiment de l'évolution à travers tout ça, parce que quand on démarre une entreprise, c'est pas toujours faisable de prendre des vacances. Et plus qu'on avance, plus qu'on réussit à sortir un peu de l'opérationnel, je pense que c'est de plus en plus faisable sans créer trop de dommages à l'organisation et que l'organisation peut quand même avancer même si on n'est pas là. Fait que je dirais, ça va faire là, bientôt 18 ans que je suis en affaires. Les premières années, c'était vraiment, vraiment pas facile. Puis même, c'était une blague au début que je disais que je faisais 8 jours semaine et non 7, là, en accumulant un emploi en plus le démarrage de l'entreprise. Fait que dans les premières années, je prenais pratiquement pas ou peu de vacances. Plus que les années ont avancé, plus que j'en prends. Cette année, c'est la première fois là, que je prenais 4 semaines en ligne de vacances. Mon plan, c'était 3. Puis il y a des gens dans l'organisation qui m'ont dit « Écoute, Jonathan, prends-en donc 4. » Je sais pas si c'est parce qu'ils voulaient me laisser aller puis que les autres pouvaient avancer plus vite ou c'est parce qu'ils voient que j'en avais besoin, un ou l'autre. Mais c'est la première fois que j'essayais 4 semaines en ligne. On décroche absolument. C'est sûr qu'il y a des choses qui avancent pendant qu'on n'est pas là, que c'est peut-être dans une direction légèrement différente de ce qu'on voudrait. Mais quand on a du bon monde au bureau, ça finit quand même par avancer et à bouger. Fait que je dirais, on se sent toujours coupable de prendre des vacances, en tout cas de mon côté, peu importe si ça soit 3 jours, 2 semaines, 4 semaines. Mais je pense qu'il faut en prendre pour réussir à baisser un peu notre niveau de stress puis réussir à reprendre le dessus pour revenir en forme. J'ai pas encore trouvé la formule magique de vraiment... Tu sais, il y en a qui prennent 2 semaines de vacances, ils reviennent, sont 3 fois plus efficaces. De mon côté, j'ai pris 4 semaines. Je trouve ça difficile de revenir parce qu'on a fini par s'habituer à un rythme qui est très différent versus le rythme ultra compressé que je suis habitué d'avoir dans mon day-to-day. Donc, c'est un clash, c'est un peu une expérimentation. Mais je pense qu'il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste la business en arrière de tout ça. Puis, il faut à un moment donné aussi que ce qu'on a accumulé comme vélocité avec l'entreprise peut servir à avoir, excusez-moi l'expression en anglais, mais à fueler d'autres rêves qu'on peut avoir un petit peu sur le côté personnel. Puis c'est un peu ce que je suis en train d'avancer de mon côté aussi, là, d'accomplir des choses au niveau personnel que j'ai peut-être pas eu la chance de faire dans les premières années de la business. Puis je dis souvent à la blague, je rattrape ma vingtaine pendant que j'ai 30 ans.
Mais moi, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu vois, je suis un petit peu plus jeune que toi. Puis je pense que et on en parlait un peu avant le podcast, je pense que j'ai pas encore cette maturité entrepreneuriale-là de comprendre l'importance des vacances, comme toi quand tu étais plus jeune en affaires, tu avais de la misère à en prendre. Moi, je suis encore dans cet environnement-là. J'en ai pris il y a quelques années de ça, mais depuis à peu près 4-5 ans, j'en ai pas pris beaucoup. J'étais très concentré dans mes projets, dans mes affaires. Était quoi l'évolution de ton côté? Est-ce que tu t'es dit ultimement... OK, cette année, je prends 1 semaine. Ah, puis là, ça se déroule bien, j'en prends 2. Ah, puis là, j'en prends peut-être 3. Puis là, tu sais quoi, j'en prends un certain trimestre. Parce qu'effectivement, faut le dire, si on n'est pas capable de prendre un pas de recul, on a la tête sur le guidon. Point 1. Point 2, on s'est lancé en affaires à un certain point pour avoir une liberté, ça a été ça l'idée hein, pour beaucoup. Si on n'en profite pas et si on ne prend pas certaines vacances, je pense qu'on n'accomplit pas un des objectifs qu'on a souvent d'être en affaires. Maintenant, bon, il y a une étape, il y a une structure. Quel a été le processus, toi, de ton côté, pour cette évolution-là que tu as eue?
De mon côté, ça a été un petit peu plus opportuniste. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'ai été initié un petit peu à faire des voyages en format pack-sac, backpack. Puis j'aime beaucoup kitesurf, le voilier, donc la motoneige aussi. Donc à force d'accumuler des passions à travers le temps, ben on a une opportunité d'aller faire une semaine de kitesurf avec des amis à tel endroit, de partir. Comme cet été, j'ai eu la chance là avec un ami qui a acheté un voilier d'aller faire du voilier avec lui sur le fleuve Saint-Laurent. Donc c'est vraiment, je dirais, plus les opportunités ou les passions autour qui se sont développées à travers le temps, qui ont commencé à meubler ou à créer des opportunités de prendre des vacances. Ça m'est jamais arrivé de dire je prends des vacances puis je fais rien. C'est toujours relié à une passion qu'il y avait autour. Donc, c'est ce qui fait, je pense, à travers le temps que j'ai pris de plus en plus de temps pour des vacances puis que j'essaie de respecter ça parce qu'à un moment donné, on finit par aimer ces passions-là puis on veut continuer à les entretenir à travers le temps. Là.
Une autre question que je te pose par rapport à ça, puis là, tu vois, c'est moi qui prends des notes un petit peu aujourd'hui pour bien planifier son 2023. Mais qu'est-ce que tu es prêt à accepter qui ne fonctionne pas bien dans l'organisation quand tu es à l'extérieur? Et qu'est-ce que tu es prêt à ne pas accepter? Donc, tu sais, il y a des choses des fois où, parce qu'on s'entend, hein, il y a toujours des pots qui vont casser, qu'on soit présent ou qu'on soit pas présent dans l'organisation. Je pense des fois, c'est une croyance limitante de penser que tout va bien aller quand on est là et tout va mal aller quand on sera pas là. Je serais curieux de voir si toi, de ton côté, t'as bâti peut-être une petite structure pour affronter le tout là, pendant des périodes de congé.
Ben, il y a un des trucs qu'un coach m'avait apporté quand j'étais beaucoup dans l'opérationnel, ce qu'il me disait, c'est que la période de vacances est vraiment une belle opportunité pour toi et ton équipe de voir à quel point ton équipe, elle est solide. Fait que ce que je faisais, c'est que je préparais les vacances quelques semaines à l'avance, puis je me disais, bon, c'est quoi les choses que je veux qu'ils avancent pendant que je serai pas là? C'est quoi les défis ou les objectifs que je donne aux gens qui sont directement sous ma charge? Puis je leur dis, écoutez, je m'en vais. C'est justement le meilleur test à savoir si tu es capable de fonctionner sans moi. Puis c'est un peu ça mon but, c'est que vous soyez capable de fonctionner sans que je sois là. Puis de leur dire, regarde, moi, je m'attends à mon retour, que ce soit telle chose qui est avancée, puis voici mes attentes. Puis on part avec un défi là-dessus. Puis en même temps, je leur disais toujours, je suis pas là, vous prenez les décisions, puis je suis convaincu que vous allez prendre la meilleure décision possible avec l'expérience que vous avez, puis le data que vous avez. Fait que je prendrais probablement la même décision être à votre place. Fait que je vous fais confiance puis je vais vous backer si jamais je suis pas d'accord avec cette décision-là au retour. Je vais juste vous expliquer quelle est ma logique en arrière de ça, mais jamais vous allez vous faire chicaner. Fait que j'essaie de prendre vraiment toujours cette optique-là de donner un peu des défis, de clairement établir les attentes pour que ça puisse continuer en avançant. Fait que tu sais, mon but, c'est qu'il faut que ça avance quand même, mais je m'attends pas à ce que les décisions soient 100% prises comme moi je les aurais prises, mais tu sais, si la vision est quand même là puis le but final puis les valeurs sont partagées, théoriquement, le résultat devrait être intéressant. Puis quelqu'un qui m'avait toujours dit, tu sais, quand on engage quelqu'un, s'il fait 80% de qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce que nous, on ferait avec la passion et l'énergie qu'on a d'entrepreneur, ben c'est déjà très, très bon.
Ben oui.
Fait qu'avec cette logique-là, ça nous permet de dire, bon, ben gars, c'est peut-être pas exactement comme qu'est-ce qu'on s'attendrait. Des fois, c'est mieux. Puis même à travers le temps, plus l'équipe grandit, on a des gens spécialisés dans certains éléments qui sont et de loin meilleur que nous sur un paquet de choses. Fait que des fois, ça avance même plus vite quand on n'est pas là parce que les gens prennent un peu plus d'initiative.
C'est intéressant. Puis d'ailleurs, bon, j'aimerais peut-être juste pour bien comprendre, tu dis 4 semaines pendant l'été, mais je pense qu'également pendant l'année, tu prends certaines pauses. Ça ressemble à quoi globalement, mettons, si on regarde les 12 derniers mois, le nombre de semaines que tu as été en dehors du bureau? C'est peut-être un petit peu le constat que tu pourrais nous donner là. Parce que au final, de ce que ça l'a donné ces semaines-là, quand t'es revenu, l'avancement du travail, qu'est-ce que ça l'a fait?
Effectivement. Ben, si on recule avant pandémie, un de mes objectifs que j'avais, c'était de me rendre à peu près en 10 à 12 semaines de vacances par année. Donc, 2-3 semaines l'été, 2-3 semaines à Noël, puis après ça, des vacances un peu par semaine à travers tout ça. Pandémie a fait reculer ça énormément, puis là, on commence à s'en aller tranquillement vers cette optique-là. Puis pandémie a fait reculer aussi parce qu'il y avait beaucoup moins d'opportunités de voyager, d'aller à l'extérieur, puis de bouger. Mais mon objectif, là, si on regarde en avant nous autres, c'est de revenir à un modèle là, entre 10 à 12 semaines de vacances par année. Je ne cacherai pas que pendant ces vacances-là, ça continue à tourner dans ma tête, puis je vais lire. C'est un des moments où je vais avancer beaucoup au niveau stratégique, parce que je vais tout le temps avoir un objectif de lire 1 ou 2 livres pendant que je suis en vacances. Fait que ça continue quand même à bouger et à avancer stratégiquement. Mais vraiment d'être capable là, de partir là, 10 à 12 semaines, c'est mon objectif. Là.
Et quand tu reviens, ça donne quoi avec tes équipes? Est-ce qu'il y a un certain point, à un moment donné, que tu t'es dit « wow, ça l'a donc bien avancé plus vite » ou d'un autre côté, finalement, tu te rends compte « ok, c'est peut-être plus relax pour tout le monde parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. »
On a du bon monde présentement au niveau opérationnel qui font le suivi. Fait que je dirais, c'est on a des gens qui sont un peu les chefs d'orchestre au niveau du pace puis de l'exécution. Fait que je dirais que je sois là ou que je sois pas là, eux sont vraiment leur affaire puis ils poussent. C'est sûr, si eux sont pas là, tout le monde ralentit un petit peu. Mais en même temps, il faut que tout le monde ait sa part de l'été puis sa part de vacances au bout de la ligne. Mais je dirais d'une vacance à l'autre, c'est spécialement une surprise. C'est des fois, on va arriver puis il y aura absolument rien sur la table à régler comme problématique. Puis d'autres fois, on pense que ça va être parfait, il y aura pas de problème puis on a 6 dossiers problématiques là, qu'il faut vraiment venir se mêler puis essayer de donner un petit coup de main puis de débloquer des choses. Plus qu'on est proche de l'opérationnel, plus qu'il y en a sur la table au retour, plus qu'on est stratégique, moins qu'il y en a parce qu'on est plus sur le moyen et le long terme. Mais ça dépend vraiment de où ce qu'on en est en tant qu'organisation. Puis des fois, ça va arriver qu'il faut reculer d'une marche, retomber dans l'opérationnel. Il y a des choses qui bougent. Fait que tu sais, c'est des cycles à ce moment-là. Et ça se peut qu'on se parle dans 3 mois puis je te dis, j'aurai pas de vacances pour 6 mois. Ça pourrait arriver. Il faut être flexible là-dessus, là, exactement.
Hein. Puis bon, là, tu me vois, là, je suis en train de prendre des notes. Donc, la dernière question que j'ai avant qu'on passe au deuxième sujet, quand les vacances arrive, est-ce qu'on coupe tout ou est-ce qu'on coupe à 50% puis on regarde un petit peu nos emails de temps en temps?
Ah, la fameuse question.
Ben, il y en a qui font les deux. Hein. Tu vois, on avait Martin Thibault d'Absolunet qui est venu sur le podcast récemment, qui vient tout juste de vendre, il a vendu en janvier son organisation à Valtech. Il a terminé en juillet son earn-out, seulement 6 mois de earn-out, assez impressionnant. Et puis il me disait, lui, ça fait 20 ans là, qu'il est Absolunet. C'est la première fois cet été qu'il vivait des vraies vacances parce que lui, pendant qu'il gérait l'organisation, même quand il prenait des vacances d'été, il était pas capable de ne pas regarder ses emails parce qu'il voulait pas être quelqu'un qui allait freiner l'avancement de certaines initiatives à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, lui, tu vois, il était pas capable de 100% se sortir de cette poutine opérationnelle-là, des Slack, des emails. Toi, ça ressemble à quoi?
C'est variable, je dirais. Il y a certaines fois que je vais décider de pas du tout regarder. Il y a d'autres fois, je préfère regarder pour être certain qu'il y a rien puis avoir un niveau de stress plus bas. Ça va vraiment dépendre. Je suis où? Je suis avec qui? Qu'est-ce que je fais? Puis, ça va dépendre de la saison. Tu sais, si on regarde cet été, c'est un peu plus tranquille. J'ai pas beaucoup regardé mes courriels. J'en ai fait un petit peu au début. À la fin, j'ai pris une journée à la fin de mes vacances pour me remettre à jour. Mais j'essaie le moins possible pendant de le faire. Mais j'ai mis un canal de communication en place que s'il y a quoi que ce soit, les gens peuvent me rejoindre super rapidement. On a une application en particulier qu'on utilise que s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent me rejoindre par là puis je vais répondre là, pratiquement la journée même. Fait que ça me permet d'être tranquille, de dire ben il y a probablement rien dans mes courriels qui est urgent. S'il y avait quelque chose, les gens me rejoindraient par cette méthode de communication-là. C'est ce qui m'aide beaucoup à pas aller voir ce qui se passe dans mes courriels.
Intéressant. Bon, donc Antoine a terminé avec ses questions. Il en a pris bonne note, puis il va essayer de planifier ses vacances pour 2023. Je reviens maintenant à un des sujets chauds du moment qui est dans plusieurs discussions, dans des panels d'entrepreneurs ou des gens qui se spécialisent un petit peu dans la compréhension des ressources humaines d'entreprise. C'est le fameux terme, le « quiet quitting ». Donc, le quiet quitting, qui également, au niveau de l'employeur, peut s'utiliser au terme de quiet firing. Donc, pour essayer de donner un petit peu de contexte à notre audience aujourd'hui, qu'est-ce que le quiet quitting? C'est un très bon article de Business Insider qui était sorti récemment, qui d'ailleurs, encore une fois, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'avais découvert ce terme-là qui, de ce que j'ai pu comprendre, était assez utilisé dans des hashtags sur TikTok et d'autres médias sociaux. Mais essentiellement, pour essayer de bien situer l'audience, aujourd'hui, le terme « quiet quitting », c'est d'être un employé à l'intérieur d'une organisation et de faire littéralement le strict minimum. C'est-à-dire de ne pas sauter sur des opportunités de nouveaux projets qui pourraient aider l'entreprise et qui pourraient même être satisfaisants et gratifiants pour l'employé. C'est de terminer le plus rapidement possible et le plus tôt possible du moment qu'on a le droit de terminer son travail. Bref, c'est littéralement de faire uniquement ce qu'on nous demande parce que le reste ne nous intéresse pas trop et peut-être qu'on est en train de regarder ailleurs ou peut-être qu'on est en train de penser à d'autres projets. Mais bref, c'est un terme qui est très populaire en ce moment. et qui est devenue de plus en plus populaire avec le télétravail. Avec le télétravail, où est-ce que les gens sont chez eux et ont peut-être plus de possibilités, ultimement, de uniquement faire le strict minimum et de ne pas demander plus. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jonathan? Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, si beaucoup de nos collaborateurs à l'intérieur de notre organisation ont cette vision-là de leur travail, et c'est peut-être moi qui est un petit peu naïf, mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas chez nous, mais s'il y a beaucoup de gens dans ton entreprise qui commencent à avoir cette vision-là du travail, les projets vont pas avancer, là.
Je pense qu'on pense tous qu'il n'en a pas dans nos organisations qui font ça, mais on pourrait être très surpris. Puis comme tu disais, Antoine, avec le télétravail, ça fait qu'on est un petit peu loin des yeux, loin du cœur. C'est plus facile. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon organisation d'avoir des gens en présentiel qui faisaient du quiet quitting. Puis on les a accompagnés rapidement là, à relever de manière gracieuse et politiquement correct d'autres défis là, dans d'autres organisations pour les replacer. Mais c'est beaucoup plus facile de faire ça en remote, malheureusement, en télétravail. Et on a même vu des cas qui ont été documentés où il y a des gens qui occupaient deux emplois en même temps en remote pour aller encaisser un double salaire. Donc, ils étaient un petit peu en mode quiet quitting dans les deux organisations et ça paraissait pas trop, là. Donc, je suis convaincu qu'il y en a malheureusement plus que ce qu'on pense. Et mon opinion là-dessus, c'est le fait d'être toujours en remote, d'être en tout cas en grande partie en télétravail, fait qu'on a un petit peu moins d'attachement à l'équipe, un petit peu moins d'attachement à ce qui se passe, la dynamisme de l'organisation, on se détache un peu plus. Quand quelque chose de bon, ça nous affecte un peu moins. Quand quelque chose de moins bon, ça nous affecte un peu plus. Et il n'y a pas cette dynamique-là ou cette esprit d'équipe-là qui ramène l'énergie toujours vers le haut. Fait qu'à un moment donné, on se fait voir, l'énergie a diminué. À un moment donné, on se distance un peu plus, on prend ça un peu plus à la légère, on en donne un peu moins. J'ai la perception, c'est un peu ce qui arrive présentement. C'est une répercussion de ma perception du télétravail qui est beaucoup plus grand qu'avant, qui accentue ou accélère un petit peu ce genre de mouvement-là, malheureusement. Là.
Et comment qu'on les repère, ces gens-là? Parce qu'on s'entend, et je pense que c'est Gary Vaynerchuk à un certain point qui avait dit ça dans un podcast. Et c'est rare que j'écoute Gary Vaynerchuk, mais ça m'avait frappé. Il dit habituellement, quand vous vous apprêtez en tant qu'employeur à renvoyer quelqu'un, c'est une bonne chose pour l'entreprise et c'est souvent une très bonne chose pour l'employé. Donc c'est, pardonnez-moi l'anglicisme, un win-win parce que c'est juste pas un bon fit. L'employé va être plus heureux ailleurs et bien entendu, l'entreprise va être plus heureuse avec un autre collaborateur. La question maintenant à se poser, c'est si on en a dans notre entreprise et on s'entend, t'as quand même 50, 60 collaborateurs dans ton entreprise, Jonathan, j'en ai une quarantaine. Donc, bon, c'est, on va dire, jouable encore. On n'est pas des centaines ou des milliers, mais plus l'organisation grandit, plus ça peut s'intégrer facilement à l'intérieur de l'entreprise. Comment on les repère? Comment qu'on peut s'assurer que les gens continuent à vouloir donner leur 100% dans leur travail au jour le jour? Et si ce n'est plus le cas, comment qu'on peut s'assurer peut-être de dire que là, on est peut-être à la croisée des chemins et peut-être qu'il faut voir pour d'autres alternatives?
C'est vraiment pas évident. Je pense que c'est tristement beaucoup une question de métrique. Hein. Si on est capable de quantifier la performance d'un poste par une métrique, c'est souvent le premier signal qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Tu sais, si quelqu'un était toujours dans les attentes puis ça se finit par ne plus l'être une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, je pense qu'il faut intervenir. Puis des fois, même il est trop tard rendu là d'essayer d'intervenir à la dernière minute, là. Mais je pense pas qu'il y ait de recette miracle pour essayer de trouver qui, malheureusement, est démotivé. C'est toujours des petites choses qui sont subtiles, qui sont tristement souvent plus faciles à voir en présentiel qu'en remote. Il existe une panoplie d'outils comme les Office Vibe de ce monde qui peuvent nous donner un certain pouls de ce qui se passe individuellement chez les joueurs, mais ça nous permet pas d'être exactement dans la tête des joueurs puis de comprendre qu'est-ce qui est motive, qu'est-ce qui est démotive, puis où est-ce qu'ils en sont également dans leur tête. Un des grands enjeux, nous autres, qu'on a présentement dans l'industrie, entre autres technologique, puis je pense que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'autres industries, c'est que les joueurs se font énormément solliciter, donc ça devient difficile psychologiquement à rester motivé dans un emploi. Beaucoup plus qu'avant la pandémie, entre autres, là. Donc, j'aimerais pouvoir avoir une réponse qui soit très efficace là-dessus, mais malheureusement, c'est beaucoup d'intangibles, puis c'est beaucoup de choses qui sont difficiles en télétravail à bien saisir à l'avance, là.
Mais je pense que le point ici, dans un contexte comme ça, c'est de surcommuniquer. C'est de surcommuniquer parce qu'on est dans des contextes de télétravail. La seule personne vraiment à qui on doit des comptes, c'est notre ordinateur. Hein. On est seul, donc on regarde les tâches qu'on a, on répond à des messages Slack, on a peut-être des projets dans Asana, dans des monday.com, mais au final, plus souvent qu'autrement, on est seul maintenant. C'est très important et nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte dans notre entreprise, c'est... Et c'est souvent quelque chose que des cadres, des gestionnaires, des fois, c'est pas instinctif, on s'en rend pas compte, mais vos collègues, les gens qui sont dans votre équipe, ils sont seuls. Ils ont pas nécessairement de feedback autre que peut-être un appel Zoom de temps en temps ou un message Slack. Donc, dans des contextes comme ça, tu te dois de surcommuniquer et tu te dois de placer des rencontres hebdo, des rencontres bi-hebdo continuellement dans les agendas de chacun des joueurs de l'équipe parce qu'au final, c'est trop facile d'oublier un petit peu la vision globale de ce qu'on est supposé faire en tant qu'équipe, en tant que projet qu'on veut atteindre. Et j'ai l'impression que si il n'y a pas cette cadence de communication-là qui est obligatoire là, même dans des entreprises, c'est là qu'en télétravail, on peut perdre le nord. On peut perdre le nord très facilement et ça arrive. Là. Et ça arrive souvent, surtout dans des périodes. Et moi, je me rappelle en début d'année, quand il faisait très froid au Québec, il y a beaucoup moins de lumière. Donc, on rentre dans des périodes un petit peu plus sombres. Donc, si on n'est pas capable de... Parce que déjà, les gens sont un petit peu plus dépressifs à ce moment-ci de l'année pour des raisons totalement évidentes. Puis si on n'est pas capable de surcommuniquer, de ramener un petit peu une vision concrète à ce qu'on fait, ça peut être facile. Ça peut être facile de se perdre et de commencer à faire d'autres choses. Donc, effectivement, je reviens à ton point, il n'y a pas de formule magique, mais la seule formule qui fonctionne quand il n'y a pas de formule magique, c'est de communiquer et surtout de surcommuniquer. Je pense que ça serait une des choses à peut-être garder en tête pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Un autre point dans cette optique-là, Jonathan, on parle de quiet quitting, mais il y a également le terme quiet firing qui n'est pas bien mieux et que ça ici, ça s'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs. Et ça, par définition, qu'est-ce que le quiet firing? C'est de traiter ses employés comme des moins que rien ou à peu près au lieu de les renvoyer. Donc, très souvent, c'est qu'on n'a peut-être pas une bonne estime de leur travail. On n'est peut-être pas aligné dans la manière qu'ils vont opérer dans notre organisation. Et au lieu d'avoir le courage de peut-être terminer la relation d'affaires, on les traite comme des moins que rien. C'est pas bien mieux non plus, ça.
Non, puis c'est triste encore à dire une fois, mais c'est beaucoup plus facile pour les employeurs de malheureusement voir ce comportement-là en télétravail qu'en présentiel. Tu sais, si on a un collègue qui est là tous les jours à côté de nous, à un moment donné, faut finir par se parler si ça fonctionne pas. Mais en télétravail, c'est tellement facile de dire « Ah, la semaine prochaine, au prochain one-on-one ou l'autre d'après. » Puis donc, il y a beaucoup moins de relations en présentiel. Je pense que c'est probablement, de ma perception, puis je suis peut-être il y a bien des gens qui auront peut-être une autre opinion là-dessus, mais je pense que la source de ces deux tendances-là vient probablement qu'il y a beaucoup moins de contact physique avec les gens. C'est beaucoup plus facile de s'ignorer en tant qu'être humain puis de vraiment bien se traiter quand on est juste à travers un écran, toujours au day-to-day, là.
Mais exact, mais il faut avoir du courage aussi en tant qu'employeur. Si on n'est pas content d'un employé, il faut avoir ces discussions-là parce que, je veux dire, ça va juste faire du temps à votre organisation sur le long terme. Une entreprise, ça a une marque. Bien entendu, mais ça a une marque employeur aussi. Et si vous agissez pas de la bonne manière avec vos collègues, et au final, il va y avoir des répercussions très, très négatives sur le long terme. Moi, je pense que c'est encore pire faire ça parce que je peux comprendre d'où ça vient. C'est pas vrai qu'on est 100% heureux dans 100% du temps avec le travail de tous nos collaborateurs. Mais dans ce qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle avec le télétravail, qui, comme on le sait, devient de plus en plus important pour la majeure partie des entreprises, il faut y avoir ces discussions-là, même si des fois, elles ne sont pas faciles à avoir. Parce que ça doit être la pire chose là, pour un employé de se sentir traité comme un moins que rien, de se dire, ben voyons, est-ce que c'est normal tout ça? T'sais? Est-ce que c'est normal?
Effectivement, puis tu l'as sûrement expérimenté de ton côté parce que veux pas vient avec notre travail le fait justement d'inviter des gens à relever des défis ailleurs, donc à faire des terminaisons d'emploi si jamais ça fonctionne pas, une question de valeur ou de performance ou de cohésion d'équipe. Et moi, ça m'est arrivé tellement souvent de m'asseoir avec des gens, puis qu'on pensait que la personne l'aurait mal pris, puis la personne dit « Hey, merci ».
Exact.
Merci parce que là, j'avais tellement de stress puis je voulais pas vous décevoir. Puis là, gars, si on le fait d'une manière bien structurée, d'une manière honorable, qu'on a avisé le joueur à l'avance, qu'est-ce qu'il devait améliorer, qu'on l'a accompagné, qu'on. Normalement, il devrait pas être surprise si on s'assoit avec lui puis dit écoute, ça fonctionne pas, on va t'aider à te replacer ailleurs. Donc, tu sais, puis il existe tellement de bonnes techniques aujourd'hui pour réussir à aider les gens, les faire évoluer, les faire cheminer à travers tout ça. Et si ça fonctionne pas, ben ça donne à rien de rester dans une relation pour les deux côtés qui est malsaine pour les deux parties là.
Non, effectivement, c'est exactement ça même. C'est exactement ça, c'est que ça peut pas toujours fonctionner. Ça peut pas toujours fonctionner, mais faut avoir ces communications là parce que vous regarderez un petit coup d'œil à l'article qu'on va mettre dans les notes de l'épisode, vous allez voir, il y a des exemples des fois que ça fait juste aucun sens là. Je veux dire, on le sait très bien que ça fonctionne pas, mieux vaut terminer tout ça ou avoir une discussion sur présentement, on va pas terminer l'emploi parce qu'on a une réalité, toi et moi, ensemble. Mais tu sais, je t'invite à regarder pour d'autres emplois. Puis dès que tu as une opportunité qui semble intéressante de ton côté, ben là, on pourra peut-être enchaîner sur, bien entendu, la terminaison de ta collaboration avec nous. Mais c'est important parce que c'est... Et j'ai l'impression que c'est encore plus facile aujourd'hui, beaucoup plus facile aujourd'hui de se tromper sur une embauche que ce l'était avant. Uniquement rencontrer quelqu'un en Zoom et faire des tests. Bien entendu, je sais que c'est pas la même chose pour toutes les entreprises, mais moi, je parle de mon côté, ça se fait comme ça. C'est quasiment, ça n'arrive plus qu'on fasse des entretiens d'embauche en face à face ou quasiment pas. C'est beaucoup plus facile de se tromper. Peu importe les métriques, les dashboards qu'on a construits, les appels avec les anciens employeurs avant pour s'assurer que la personne est apte à bien fonctionner. Je connais pas une personne qui a un ratio à 100% de réussite à ce niveau-là. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on se doit de réaliser nous-mêmes en tant que chef d'entreprise en ce moment, si on parle du volet quiet firing, si on n'est pas en train d'agir comme ça avec certains de nos collaborateurs. Parce que ça, c'est un terme, c'est une action que, à mon avis, beaucoup de gens posent, mais ne savaient pas qu'il y avait un nom autour de ça. Et maintenant, on est capable d'y mettre un nom aujourd'hui. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, allez jeter un petit coup d'œil. Quiet quitting, quiet firing, c'est des thèmes qui, moi, m'ont beaucoup fasciné dans mes lectures d'affaires récemment parce que ça met des mots, des fois, à des choses que tu ne savais pas qui étaient communs à travers l'industrie en général.
Effectivement, c'est un gros trend aux États-Unis présentement et il y a tellement d'entreprises présentement qui commencent à resserrer un peu la vis. On parle des méthodes ce monde, qui est la maison mère, entre autres, de Facebook. Google également, ils commencent à avoir des documents qui sont supposés être classés secrets dans les organisations qui commencent à être ébruités au public, qui sont en train de resserrer leurs critères de performance puis d'envoyer des demandes aux managers de dire « OK, là, vous arrêtez les embauches, mais vous avez un certain nombre de personnes que vous devez remercier. » Donc, on le voit, là, il commence à avoir un petit revirement au niveau de l'économie, au niveau de la situation, là, on n'est plus en mode, en tout cas aux États-Unis, on a besoin d'embaucher en masse, mais c'est plus l'inverse qui se passe.
Exact.
Donc, il y a un revirement de situation qui est en train, je pense, de se produire aux États-Unis, à voir à quel point ça va nous affecter au Canada. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'heure actuelle. Et là, je pense que c'est là que ces trends-là, malheureusement, prennent un peu racine aussi et s'enflamment à travers tout ça. Là.
Exact, c'est souvent ça. Le début, une contraction économique qui, là, par la suite, amène quelques conséquences, quelques changements. Après une ébullition économique, ben, c'est ça qui peut se dérouler. C'est qu'on revient davantage à une normale. Les entreprises, comme on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, qui ont trop embauché, se retrouvent face à des réalités, des fois un petit peu difficiles. Mais bon, quand même, gardons ça en tête. Si on est un employeur et on est en train de faire du crowd firing, posez-vous les questions, allez lire l'article et regardez comment vous pourriez agir autrement parce qu'il y a beaucoup d'options pour agir autrement. Et d'un autre côté, si vous nous écoutez, vous êtes un employé aujourd'hui, si vous ne faites que le strict minimum et que vous assurez de terminer le plus tôt possible parce que bon, le projet est fait puis on m'en demande pas plus, ben c'est peut-être pas nécessairement le bon endroit où est-ce que vous travaillez présentement. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil à ces articles-là. Jonathan, avant que je te laisse filer, as-tu d'autres choses que tu aimerais discuter aujourd'hui?
Ça complète pour le sujet aujourd'hui, Antoine. Merci.
Fantastique. Donc, on prend des notes, on sait maintenant comment structurer nos prochaines vacances pour 2023 et on s'assure de lire les articles qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.